Ici Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie. Vous écoutez le libre journal de Lumière de l'Espérance, dirigé aujourd'hui par Jean-Pierre Diques, assisté de Magali et de Luc Perel.
Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue sur le Libre Journal de Jean-Pierre Diques, qui reçoit aujourd'hui, avec l'assistance de Magali et de Luc Perel, Wilfried Wurmeling, secrétaire général de l'UNEC.
Voilà, chers amis de Radio de l'Espérance, Lumière de l'Espérance, de Radio Courtoisie, eh bien, je suis content de vous retrouver. Je vous souhaite un bon dimanche. Et je vous dis bonjour. Alors nous recevons une équipe assez éclectique, comme vous allez pouvoir le voir. Il y a notre ami Winnie Wurmeling, qui fait un travail admirable dans le cadre de SOS Maman, qui aide les femmes enceintes à porter et à supporter leur grossesse. Mais il ne va pas nous parler de ça. Il va nous parler de ce pèlerinage, de ces pèlerinages qu'il organise maintenant depuis plusieurs années vers des hauts lieux du christianisme qui ont comme caractéristique de posséder des reliques du Christ lui-même. Alors ça va être certainement très très intéressant. Je vous remercie, Winnie Wurmeling, d'être venu. Alors, notre chère Winnie Wurmeling, en fait, pourriez-vous nous énumérer, si vous les avez encore en tête, tous ces voyages vers ces différentes reliques du Christ, en fait?
Oui. Au début, nous avions étudié la Sainte Tunique d'Argenteuil.
C'est ça, oui. Il y a quelque chose de nouveau par rapport à l'époque où vous nous en aviez parlé?
Non, depuis un an.
Avec le professeur Lucotte,
c'est ça. Rien de nouveau, parce qu'on travaille beaucoup sur les sandales du Christ à Prume. Et justement, pour
Prume,
faire les parallèles des spores, des pollens, des couleurs, des deux reliques, de façon à confirmer mutuellement l'authenticité. Vous voyez, vous travaillez ou sur l'une ou sur l'autre, c'est valide pour les deux. Donc on ne peut pas tout faire en même temps. Mais à la suite de ça, de ces pèlerinages à la Sainte Tunique que nous faisons chaque année, vous savez, avec 300, 400 personnes maintenant, vers
c'est bien,
petit à petit ça prend.
Est-ce que la paroisse vous aide pour cela? Non, ça les intéresse pas.
Au début
pas.
C'était très difficile, oui. Et sur 20 ans, ça a drôlement
ça
évolué.
Ça fait 20 ans que vous faites ce pèlerinage.
Oui, mais pas avec l'évêché, mais avec les curés d'Argenteuil. On s'entend vraiment bien maintenant, on tourne autour du même objet, et ils ont bien compris l'intérêt d'une procession à travers la ville, une fois par an, et c'est la nôtre, avec les gendarmes devant, les gendarmes dans l'arrière, et les chants, de façon que même les musulmans nous abordent, ils disent « qu'est-ce que c'est, ces merveilleux chants ?» Vous voyez, ça impressionne vraiment les gens aussi. On n'a jamais eu d'incident à Argenteuil, il y a 60% d'immigration, vous savez bien. Jamais, ça se passe toujours magnifiquement. C'est vrai que ça se passe le dimanche 3h, c'est un peu l'heure tranquille. Mais l'année prochaine, pour la première fois, je pense qu'on aura la messe Saint-Pie-V à la fin de notre procession sur l'autel privilégié de la Sainte-Unique à Argenteuil. Et ça, c'est vraiment un achèvement de 20 ans de travail, de mettre en valeur et en exergue de nouveau cette magnifique tunique du Christ, qui est peut-être quand même la relique la plus importante du Christ en France. Bien sûr, il y a la couronne d'épines à Notre-Dame, mais aucun travail scientifique a été fait. On a pratiquement que l'histoire avec Saint-Louis, etc. Mais on n'a pas vraiment un fond scientifique comme on l'a essayé de faire avec les autres reliques.
Oui, alors c'est le cas, excusez-moi de vous interrompre, mais c'est le cas de ma ville de Boulogne-sur-Mer où le frère de Godefroy de Bouillon revenant de la croisade, qui s'appelait Eustache III, qui sera comte de Boulogne, va ramener un petit mort, morceau du linge qui a servi à essuyer le Christ après qu'il ait été descendu de la croix.
Oui.
Et il est dans un très beau reliquaire qui a été offert par Philippe le Bel et qui a échappé à la fureur des révolutionnaires. Et c'est pas du tout connu. Et j'ai un ami, j'ai un ami biologiste qui me dit, mais nous, on peut identifier le sang du Christ, on peut dire le groupe très très facilement sans abîmer la relique, sans faire de dégâts là-dessus. Vous connaissiez pas ça?
Si. On a fait une liste de 18 reliques du sang du Christ, dont on a déjà étudié 7, mais pas Boulogne. Boulogne, c'est bien marqué ici, il faut que je te voie, qu'on aille ensemble retrouver le reliquaire et un peu les documents, etc. et élucider. C'est un travail merveilleux. Dans toute l'Europe, ils sont disséminés, ces reliques. Et là, le pèlerinage qu'on a fait en mai, c'était un peu l'aboutissement, on a fait un pèlerinage aux reliques du sang du Christ par 5 pays avec les 6 reliques les plus importantes. Naturellement, en commençant à Argenteuil. On montait dans le car à Paris et après une demi-heure, on était déjà à la première station. Bon. Et ensuite, Bruges, en Belgique, avec l'ampoule du Saint-Sang du Christ, qui est vraiment quelque chose là-bas. 80 000 pèlerins chaque année, le jeudi de l'Ascension, avec tout le village, toute la ville qui se transforme en vêtements moyenâgeux pour représenter les scènes de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, et surtout l'histoire même de la Sainte Relique à Bruges. Et avec l'évêque lui-même qui porte la relique à travers la ville, et puis sur la place devant la Sainte-Chapelle de Bruges, la bénédiction finale, eh bien nous avons vu les policiers en garde à vous et les gens à genoux. Donc ça, c'était vraiment quelque chose de grandiose qu'on a vu. Inconnu en France. Hein. Bruges, on ne parle pas de Bruges. L'ampoule du Saint-Saint.
C'est le jeudi saint? Quel est le jour où a lieu cette...
C'est toujours le jeudi saint.
Le jeudi saint.
Je peux que vous encourager de prendre note et d'y aller un jour. Je vous donne une autre date après pour Neuvy-Saint-Sépulcre. C'est toujours le lundi de Pâques. Ça, c'est des grandes processions qui existent encore en France. Il faut vraiment les vivre. Les gens disent qu'il n'y a plus l'Europe chrétienne. Si, il y a l'Europe chrétienne, mais il faut le faire vivre. Il faut y aller. Il faut des petites et grandes initiatives. Bon, la troisième station était donc alors Prüm. Prüm, c'est une abbaye bénédictine depuis le père de Charlemagne. Le père de Charlemagne, Pépin le Bref, alors le fils de Charles
c'est
Martel.
C'est en Allemagne.
Voilà. Alors lui, il a amené cette relique de Rome. Et à Rome, il l'a reçue du pape Zacharie en gage de la nouvelle alliance entre l'Église et les Francs, au lieu de l'Église avec Byzance. C'était une alliance qui commençait à dépérir, même il y avait les guerres finalement entre l'Église et Byzance, et se piquaient les territoires, etc., en Italie, donc ça allait plus du tout. En même temps, le pape se sentait vraiment confronté à une attaque du Sud par l'islam, déjà à l'époque,
Et c'était à quelle année ça?
Oui.
Du temps de Charlemagne, vous avez parlé?
Oui, alors c'était 760, il a reçu la relique. Donc c'était autour de ces années-là qu'il y avait déjà Charles Martel, il s'était engagé en face du pape, je vais protéger la papauté, etc. Mais il n'a pas fait de guerre, etc., jusqu'à la Lombardie, etc. Ça, c'est Pépin qui l'a fait, avec le couronnement de Pépin par le pape. Couronnement, pas d'empereur, mais de roi des Francs, d'accord? Et c'est Charlemagne, son fils, qui finalement a été couronné empereur à Rome en l'an 800. Bon, alors le gage de cette alliance-là, c'était la relique des sandales du Christ. depuis ce temps-là, 760, elle n'a jamais bougé de ce monastère.
Oui.
Elle est encore aujourd'hui là.
Alors, vous avez fait un voyage cette année, là,
oui,
cette année-ci ?
Alors, cette année, on est passé là-bas. On a de très bonnes relations avec eux maintenant aussi. C'était le jour de l'Ascension, justement. On a réuni les deux choses. Et avec une belle messe, etc., toujours avec nos prêtres de la tradition. Il se trouve que notre professeur Lucotte a eu accès à cette relique il y a 5 ans.
Oui, c'est un ami du docteur Perel.
Oui. Et avec ces, enfin, en imposant, vous savez, des bandes adhésives, délicatement, on les enlève. Et là-dessus, vous avez plein de choses à étudier, mais pour des mois et des années. Des poussières, des pollens, des spores, du sang, du cuir, des couleurs. Alors là, quand vous regardez avec le microscope à balayage électronique, c'est comme si vous atterrissez sur la Lune. Hein. Là, il y en a plein de choses qui traînent partout.
C'est le professeur Lucotte qui fait ça.
Voilà, oui. Voilà, professeur Lucotte qui fait ça depuis 5 ans. Et là, il a déjà sorti deux grandes conférences là-dessus. Et on attend maintenant l'analyse du sang. Il y a une couche dans les sandales qui est complètement trempée de sang. Bon, on est un peu devant l'énigme, mais l'idéal pour nous, ça serait vraiment de venir là à l'ADN, à l'analyse de l'ADN.
Mais il y a déjà le groupe sanguin qui est quand même...
Oui.
Il suffit de 3-4 globules.
C'est vrai.
Oui.
C'est le groupe AB, mais...
Alors, donc ça, c'est le même groupe que celui du sujet de
exactement.
Turin.
Exactement. Comme Oviedo, Turin et Argenteuil.
Donc,
déjà,
on retrouve, oui.
Là, il y a une convergence. En plus, les spores, les plantes de Palestine, qui sont dans ces 4 reliques, et qui existent en partie, même pas en Europe, qui existent que là-bas. Donc, il y a déjà des preuves incroyables d'authenticité à travers ça. Mais nous, on vise... le saint sang du Christ. Si on arrive à faire une analyse complète du sang du Christ, et si c'est le même à Turin et à Oviedo et à Argenteuil, je me demande comment les francs-maçons peuvent continuer à dire le Christ, c'est un mythe. C'est un homme qui a marché, il y a les sandales. C'est un homme qui est mort, il y a le linceul, il y a son image, etc. Et ça, je vois même que la franc-maçonnerie change actuellement de tactique. Devant la masse des preuves, il commence à dire enfin, il a peut-être vécu, mais c'était pas Dieu. Et c'est pas si bête que ça, parce que finalement, ça nous ramène à la question religieuse. Il faut pas douter du Christ qu'il aurait pas vécu. Ça, c'est stupide aujourd'hui, avec ce qu'on a dans la science.
Oui,
mais
au début, Renan
devant
qu'il
cet homme,
pas existé, oui.
Devant
oui,
cet
oui,
homme, oui. Placé devant lui par nos scientifiques, finalement, la vraie question, elle vient, est-ce que tu crois qui je suis ? Hein? Donc, merci les scientifiques de ce côté-là.
Oui.
Voilà, donc ça c'était...
Mais ça ne répond pas à la question finalement. C'est classique de dire, bah oui, ça a été un grand prophète, ça a été un homme extraordinaire, mais on ne voit pas pourquoi il serait fils de Dieu. Quoi.
Oui, ça c'est la question de la foi, hein, de croire en Jésus-Christ. Bon, alors le quatrième, c'était aussi une merveilleuse visite à Weingarten, près du lac de Constance, en Allemagne, avec la plus grande chevauchée d'Europe, 3000 cavaliers, pour fêter la fête du sang du Christ avec la relique qu'ils ont, eux, je l'explique tout à l'heure, avec le curé de la basilique qui porte la relique à cheval. Hein, le curé à cheval, on a pris des vidéos et tout. C'était une fête incroyable dans une grandiose basilique baroque de Weingarten. Alors ça, c'est une relique qui vient de...
C'est où ça exactement, en Allemagne ?
C'est peut-être 30 km au nord du lac de Constance, si vous voyez ce que c'est.
Très bien, oui.
Lac de Constance, 30 km au nord, c'est Weingarten. Une ville idyllique, ancienne, de Souabe. C'est pas encore la Bavière, là-bas. Alors, cette relique est venue de là-bas, de Mantoue, et à Mantoue, elle était déjà arrivée au VIe siècle par Cappadoce, c'était la relique de Longin. Longinus.
Longin, oui, oui.
Longin, soit dit, c'est une très ancienne
C'est celui qui a percé
tradition.
Le Le flanc du Christ avec sa lance.
Non, il aurait ramassé un bout de terre de Golgotha sous la croix qui était trempée du sang. Et c'est ça la relique d'origine. Et il est devenu catholique et il est devenu chrétien après. Il s'est réfugié en Cappadoce. Il est mort en martyr. La relique a été ramenée à Constantinople et elle a été donnée en 500... Attendez, je vais vous dire... En 553 de Constantinople à Mantua. On dit Mantua en français, Mantua en Italie.
Mantoue.
Alors ça, c'est une très vieille, aujourd'hui, une très vieille relique, aujourd'hui encore vénérée. Et elle a été partagée à 1053 entre l'empereur, le pape, et un bout est resté à Mantoue. Et c'est comme ça qu'elle est parvenue finalement par l'empereur Henri III de l'Allemagne à Weingarten. Et ça, c'est tout le monde connaît en Allemagne, sauf en France, hein, la relique de Weingarten, on ne connaît pas. Donc, c'était une des grandes heures de ce pèlerinage. Et finalement, Turin, c'était l'ostension. C'était en plein milieu de l'ostension de cette année. J'explique pas. Et puis, une nouvelle découverte aussi, Neuvy-Saint-Sépulcre.
Alors, Neuvy-Saint-Sépulcre, c'est extrêmement intéressant. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est une reproduction, en réalité, de ce qu'étaient les tombeaux des deux premiers rois de Jérusalem, qui étaient Godefroy de Bouillon et Baudouin Ier de Jérusalem.
Oui.
Alors, c'était des boulonnais, donc j'en parle avec beaucoup de... Mais c'est très intéressant, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en 1804, le sultan Mahmoud, qui régnait sur le Jérusalem, était très bienveillant vis-à-vis des chrétiens.
Ouais.
Et il y a eu les lieux saints ont pris feu et le sultan Mahmoud a demandé aux chrétiens de s'arranger ensemble pour reconstruire ces lieux saints. Bon, vous avez peut-être été à Jérusalem, c'est un peu de bric et de broc cette affaire-là. Et malheureusement, le pape, il a demandé à toutes les confessions, des orthodoxes qui étaient là. Bon, il y avait les Grecs, les Turcs, etc. Bon, et le pape Pie VII était emprisonné à Fontainebleau. Mm-hmm. Donc, il n'a pas pu s'occuper de cela. Et les Byzantins se sont empressés de détruire toute la présence franque.
Catholique, oui.
Franque. Et catholiques, et ils ont démoli cet endroit où se trouvaient les corps des deux premiers rois de Jérusalem. Alors Chateaubriand les a dessinés. Chateaubriand les a dessinés en son temps quand il est allé à Jérusalem. Et malheureusement, ça a été la restauration sauvage des lieux saints. C'est pas terrible, en fait. Je sais pas si vous êtes allé à Jérusalem, mais c'est pas extraordinaire et c'est tout à fait dommage. Mais je suis très content d'avoir pu voir ça parce que c'est une reconstitution de ce qu'était l'intérieur.
C'est vrai, c'était le pèlerinage de Jérusalem. À l'époque, c'était le plus grand pèlerinage après Rome. Et déjà Charlemagne, avant lui, les Byzantins, ils voulaient refléter cette Jérusalem un peu dans les grandes villes d'Europe pour pouvoir faire le pèlerinage déjà sur place. Par exemple, à Ravenna, hein, la grande rotonde, basilique rotonde, pleine de mosaïques dorées à Ravenna. Et Charlemagne lui-même était impressionné de ça. Il l'a reconstruit à Aachen, à Aix-la-Chapelle. Cette église octogonale, magnifique, à Aix-la-Chapelle. Et en France, il n'y a que deux églises comme ça, rotondes. C'est Ottmarsheim en Alsace et celle-ci à Neuvy-Saint-Sépulcre. Alors je vous recommande donc, chaque lundi de Pâques, ils font leur procession depuis des temps immémoraux.
Rio.
Voilà.
À Neuvy-Saint-Sépulcre,
oui.
Il y a une procession
de 2000, à peu près 2000 personnes, mais ils disent avant ils étaient 10 000, mais 2000 c'est pas mal.
C'est déjà pas mal.
C'est pas mal. Ouais. L'évêque de Bourges, il vient rarement et là-bas c'est fervent. Vraiment.
Il n'y a pas trop d'humidité, parce que je me souviens que quand j'y avais été, c'était très humide.
Ah oui. Oui. Non, c'était, il faisait beau comme tout. Et puis, il porte la relique vraiment avec un baldaquin, vous savez, avec des plumes byzantes en haut, au-dessus voilà. du baldaquin. C'était magnifique. Et là aussi, on a pu dire la messe dans cette vieille église, avec cet octogone, donc avec notre chœur grégorien. Ça résonnait, ça faisait presque polyphone, notre grégorien. C'était une magnifique fin de notre pèlerinage.
Parfait. Alors, on se retrouve dans 4 semaines. Merci bien.